Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, Émilie, Pierre, Patrick, Mathieu et Mohamed. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Babette.
Cinq, comme les cinq prochaines années que les Français ont accordées à Emmanuel Macron à la tête du pays. Emmanuel Macron réélu, mais déjà sous pression à la une du Parisien avec l'extrême droite à un niveau historique, rappelle Le Monde, un exploit qui oblige pour l'opinion avec 1000 défis pour le Télégramme. Bref, tout reste à faire, résume La Croix, ce qu'avait, semble-t-il, bien en tête Emmanuel Macron lorsqu'il s'est adressé aux Français depuis la Tour Eiffel à 21h33 hier soir.
Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Notre pays est pétri de tant de doutes, de tant de divisions. Alors il nous faudra être forts, mais nul ne sera laissé au bord du chemin. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève, mais l'invention collective d'une méthode refondée pour 5 années de mieux, au service de notre pays, de notre jeunesse.
Bonsoir Jean-Pierre Raffarin.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Merci de votre présence ce soir à vos côtés. Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB. Bonsoir. On ne vous a pas vu hier soir au Champ de Mars, Jean-Pierre Raffarin. Vous n'aviez pas le cœur à la fête ?
Pas du tout, mais j'étais avec mes petits-enfants dans ma région, en famille. J'ai toujours regardé les résultats en famille, c'est là où on a les informations les plus saines, les plus naturelles. Avant de revenir dans le milieu parisien, j'ai respiré un peu le bon vent de l'Atlantique.
Quelle a été votre réaction ? Un ouf de soulagement à 20h ?
Oui. D'abord une satisfaction, mais quand même la conscience de la gravité.
Oui, pas de liesse, pas de triomphalisme.
C'est la dernière étape avant l'autoroute de l'extrémisme. On est là. Depuis les années 2000, la dérive est enclenchée. D'étape en étape, on voit que ça se rapproche. Et donc, je pense que la continuité,
donc,
c'est l'échec.
Pas cette
Il faut changer. Voilà.
C'était pas cette fois-ci, mais ce sera peut-être en 2027.
La mission de ce quinquennat, c'est de faire en sorte que le successeur d'Emmanuel Macron soit un républicain. Je pense que c'est ça. Il faut chasser la haine de notre République et il faut réussir ce quinquennat. Donc il faut transformer beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'un problème de Macron, ce n'est pas qu'un problème de sa famille politique. C'est un problème de notre démocratie, mais aussi de toutes les démocraties. Parce que les régimes autoritaires avancent et les démocraties reculent. Et donc c'est aujourd'hui assez évident que quand la politique recule, c'est la violence qui avance. Et donc notre problème aujourd'hui, c'est de faire de la violence notre ennemi collectif.
L'autoroute de l'extrémisme, ça fait 20 ans que la France y est engagée, Bernard Sananès.
Oui, alors avec des hauts et des bas. Hein. Il y a eu des élections qui ont mis un coup d'arrêt à cette poussée de l'extrémisme, par exemple 2007. Mais c'est vrai que le score d'hier, la progression de Marine Le Pen, j'allais dire, est tout aussi importante à souligner que le succès d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'on ne peut pas n'avoir qu'une lecture. C'est en fait une double première fois. Première fois qu'un président sortant est réélu.
Première fois période de cohabitation. Voilà, et première fois
pour que Marine Le Pen passe, ou quelqu'un du Rassemblement National passe la barre des 40%. Et donc si on n'a pas cette double lecture qui oblige forcément à un regard contrasté, on ne comprend pas ce qui s'est passé hier soir et on aurait une lecture complètement partielle.
Regard contrasté, ambiance en demi-teinte, un soulagement sans liesse qui venait clôturer une étrange journée d'élection, Mathieu.
Oui, la fin de longs mois de campagne et de débats, de 2 semaines d'entre-deux-tours. Et dans tous les foyers, il y a toujours un certain suspense à 20h.
Emmanuel Macron qui est réélu président de la République.
Mais revenons quelques heures auparavant. Les deux candidats votés dans le Pas-de-Calais. Bain de foule et poignée de main, devoir civique accompli à la mi-journée. On a aussi vu d'anciens candidats comme Valérie Pécresse oubliant de passer par l'isoloir, peut-être pas encore remise du premier tour. Ou encore ce geste illégal de Jean Lassalle.
je refuse de participer à ce vote. C'est-à-dire, je m'abstiens.
Au final, le taux d'abstention le plus élevé depuis 1969, 28,01%, et plus de 3 millions de bulletins blancs ou nuls.
C'est fatigant de voter contre quelqu'un. En
fait. Aucun des candidats me satisfaisait.
Je me dis qu'au final, voter par dépit, c'est comme ne pas voter, donc ça sert à rien.
En fait, j'ai l'impression qu'en fait, elle passera jamais, dans tous les cas, Marine Le Pen.
Fin d'après-midi, ambiance festive chez les candidats, des militants, et c'est presque ce qui les définit, toujours confiants, avant l'annonce des résultats.
Vous y croyez encore ?
J'y crois.
Quel est votre état d'esprit, là ?
Très positif, un peu fatigué, mais très positif. Les sondages se sont toujours trompés.
Confiante et j'espère qu'elle va gagner.
Nous espérons que tout à l'heure notre champion passera.
Bah c'est confiant, hein. Ouais. On y croit.
Pour moi ça va le faire.
Ça va le faire, on va y arriver.
Allez, soyons fous. 55.
20h, Emmanuel Macron réélu avec 58,54% des suffrages exprimés. La fête au pied de la Tour Eiffel, pas la même ambiance au fief de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Je vous invite cependant à bien regarder ces deux jeunes hommes qui, eux, se satisfont du résultat plus discrètement, dirons-nous. 20h07, Marine Le Pen ici au téléphone, probablement avec Emmanuel Macron, comme le veut la tradition, avant de prononcer son discours de défaite.
Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
Et comme dans toutes les soirées électorales, au micro, des militants déçus et d'autres ravis.
Je suis tellement déçue. Marine a fait une tellement belle campagne. C'est pas possible.
Il y a des gens inconscients, il y a les gens qui ont voté blanc. Et puis il y a les autres, les plus riches, les plus cyniques.
Il y a des gens qui s'occupent de bourrer les urnes. Et ça, on n'en parle jamais. Mais
pardon, il y a eu du bourrage d'urnes aujourd'hui ?
Mais il y en a toujours.
Énorme soulagement. J'avoue que je suis assez content que ce soit une victoire aussi nette et que ce soit pas ric-rac 51-49.
Quoi. Tout le monde sur les réseaux sociaux disent non, il passera jamais, ce sera Marine Le Pen.
C'est pas une grande surprise, mais c'est un soulagement.
Retour au Champ de Mars, où les ministres festoyaient, on en a même vu danser. Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, s'est inquiétée pour sa pelouse.
À 22h, ils arrêtent là, parce que les riverains.
À 22h, vous éteignez la musique.
Juste pas plus.
Bon, alors désolé pour les riverains et pour la musique, simplement.
Toi après. Bon.
Pour les riverains du 7e arrondissement, un DJ jusqu'à l'arrivée du président, One More Time des Daft Punk pour lancer la soirée après les résultats. Dans le même temps, sur toutes les chaînes, on cherchait le cortège du président avec plus ou moins de réussite.
Emmanuel Macron, oui, qui se dirige vers le Champ de Mars, mais qui prend un chemin assez particulier. Là, c'est pas vraiment le chemin direct pour aller de l'Élysée au Champ de Mars, mais voilà, ce qui est sûr, c'est que le président est devant nous. La voiture que nous avons suivie, et nous avons peut-être été leurrés, ça avait été le cas il y a 5 ans, n'était pas celle du président.
Nous suivons un convoi, Anne-Sophie, mais je ne voudrais pas me tromper. Merci une deuxième fois, parce que les informations sont un petit peu compliquées à obtenir ce soir.
Le président a bien fini par arriver au Champ de Mars pour lancer une longue marche en compagnie de son épouse, d'enfants, de collaborateurs et de membres des Jeunes avec Macron sur l'Ode à la joie, Beethoven, l'hymne de l'Union européenne. Avant son discours, une marche en écho à celle du Louvre il y a 5 ans.
Vous n'avez pas ménagé vos efforts, avez donné tant d'énergie, partagé tant de convictions. C'est en frappant au cœur que vient la vérité.
Pas une folle ambiance auront noté les observateurs sur place, mais avec un poil plus d'humour qu'il y a 5 ans. Et puis à 21h50, une cantatrice est arrivée sur scène pour chanter la Marseillaise. La foule ne l'a pas attendue. Faux départ, et puis elle s'est lancée au pied de la Tour Eiffel.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
La soirée ne s'est pas poursuivie jusqu'au bout de la nuit. Rapidement, les rangs se sont vidés. Le couple présidentiel s'est rendu à la résidence de la Lanterne, à Versailles. Dans la soirée également, c'est une première. Les perdants du premier tour ont prononcé des discours officiels, se tournant vers les prochaines échéances électorales. Tandis que, place de la République à Paris, les déçus de l'affiche du second tour manifestaient. On notera quelques échauffourées avec les forces de l'ordre en fin de soirée.
J'ai pas voté, je veux dire, il y avait ni l'un ni l'autre, c'est abject.
Je suis terrorisé pour notre avenir, on peut pas repartir sur 5 ans d'inaction climatique. Alors il faut se battre, il faut être prêt à tout, il faut descendre dans la rue, où que vous soyez en France, descendez dans la rue, battez-vous.
J'ai voté Macron parce que je veux faire barrage au FN, j'étais pas fière en fait, je me sens humiliée moi de voter.
Jean-Pierre Raffarin, tous ces Français qui ont choisi de ne pas voter, c'est parce qu'ils n'aimaient pas le casting ou parce qu'ils pensent que les politiques ne peuvent plus rien pour eux ?
Bon, je crois que c'est un peu partout dans le monde la crise des démocraties. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole aux États-Unis, toutes les manifestations qu'il y a partout dans le monde, dans toutes les démocraties. Donc je crois qu'il y a une lassitude des démocraties, sans doute que les nouveaux systèmes de communication, sans doute aussi que la complexité des sujets fait que c'est de plus en plus difficile d'expliquer. Au fond, il y a une vraie crise du débat. Il n'y a plus vraiment de débat dans nos choix. Il y a assez peu de choix idéologiques aujourd'hui. Donc je comprends que le système est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'il faut vraiment inventer quelque chose. J'ai bien aimé dans le topo du président hier soir où il parlait plus d'invention que de continuité. Il faut inventer. Où est la démocratie sociale ? On va faire une réforme des retraites. Comment ça fonctionne, la démocratie ? Il n'y a plus vraiment de démocratie sociale. Où est la démocratie territoriale, la contractualisation, tout ça ? C'est fragilisé. Quant à la démocratie politique, où est le rôle du Parlement ? Où sont les lieux de délibération dans notre pays ? Tout remonte à l'Élysée, tout remonte sur le président, tout remonte, déjà depuis Nicolas Sarkozy, je trouve, tout remonte aujourd'hui sur l'homme en charge de l'essentiel, le président. Moi, j'ai vécu avec un président de la République, qui était Jacques Chirac, qui avait le domaine réservé, il y avait la politique étrangère, il y avait la défense. Il m'avait même dit un jour, écoute, jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue, c'est toi. Et au-dessus de 2 millions, c'est moi. Donc, le social, tu t'en occupes. Bon, je veux dire, on protégeait le président. Aujourd'hui, le président est beaucoup trop exposé. Personne ne protège le président. Et au bout de 5 ans, il est un peu jugé. C'est quand même étonnant, ce phénomène de rejet. Il n'a rien fait de mal, de coupable, au point d'avoir ce niveau de rejet.
Et donc, l'homme le plus détesté de France, disait ce matin Raquel Garrido.
C'est ce que disent les sondages.
Non, en tout cas, c'est vrai que ce pic d'hostilité qui a été atteint une fois au moment des Gilets jaunes, depuis, il a été, un peu neutralisé. C'est-à-dire qu'on avait une impopularité, mais finalement une impopularité qui ressemblait à celle des autres présidents. Mais c'est vrai que le président de la République a cristallisé, presque plus sur sa méthode, sur ses styles personnels que sur ses choix politiques, effectivement, une part d'opposition qui restait très importante.
Je vous fais réagir dans un instant, messieurs, juste après l'édito de Patrick. Emmanuel Macron, président réélu sans état de grâce.
Oui, c'est le paradoxe de cette élection. Emmanuel Macron signe un exploit politique historique en devenant le premier président réélu depuis l'instauration du quinquennat il y a 20 ans et hors cohabitation. Sa victoire est claire et nette. Il double son score du premier tour. Il gagne avec 17 points d'avance sur Marine Le Pen, très loin des sondages qui laissaient entrevoir un résultat ric-rac au soir du 10 avril. On avait du 51-49 ou du 52-48. Pour ce qui est de votre institut. Mais avec la même adversaire, cette avance était de 32 points. Il y a 5 ans, les 10 millions de voix d'écart de 2017 ont presque fondu de moitié, 5,5 millions. Pour mémoire, en 2002, il y en avait 20 millions entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. On est passé de 20 à 10, puis à 5. C'est dire que Marine Le Pen aussi a réalisé un score historique à plus de 40% et 13 millions de voix. L'extrême droite et le vote Le Pen n'ont jamais été aussi hauts.
Avec une abstention record depuis 50 ans.
Oui, ce qui fait que les 13 600 000 abstentionnistes sont plus nombreux que les électeurs de Marine Le Pen. En revanche, les bulletins blancs ou nuls dont on a parlé, toujours très nombreux, ont diminué d'un quart par rapport à 2017. Résultat, on retrouve à peu près le même nombre de Français dans le camp du ni Le Pen ni Macron. Vous voyez, 500 000 de plus seulement en 2022.
Marine Le Pen a néanmoins gagné en 5 ans plus de 2,5 millions de voix.
Elle sort en tête dans 30 départements contre 2 seulement en 2017, l'Aisne et le Pas-de-Calais. Vous voyez comment son influence s'est étendue au nord, en Bourgogne et Grand Est, en Occitanie. Et dans le Midi, le vote Le Pen est majoritaire dans 2 régions, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans aucune grande ville. Toutes les métropoles ou villes de plus de 100 000 habitants ont voté Macron, souvent avec des scores très élevés, plus de 80% à Paris, Nantes, Bordeaux, Rennes. Même Perpignan, en vitrine du RN avec Louis Alliot, a voté en faveur du sortant, 52%. Mais dès que vous sortez de ces villes, à 20 ou 30 km et plus, le vote Le Pen devient dominant. C'est la France périphérique qui gonfle le score du RN, alors que la France, ainsi que la France ultra-périphérique, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire l'outre-mer, avec des scores inouïs quand on se souvient de l'hostilité ancienne de ces territoires au Front National. 70% pour Le Pen en Guadeloupe, 60% en Martinique, Guyane et à La Réunion.
Des territoires qui avaient beaucoup voté Mélenchon au premier tour.
Et qui ont converti ce vote anti-Macron en vote Le Pen au second tour. au contraire des villes et des banlieues de métropole. Voyez le report de vote des électeurs de Mélenchon. 42% d'entre eux se sont finalement déplacés pour voter Macron, bien plus que leur intention de départ telle qu'elle avait été mesurée au soir du premier tour.
Emmanuel Macron a largement profité d'un vote de barrage à Marine Le Pen.
Oui, mais pas seulement. D'après l'enquête Ipsos réalisée hier, le vote d'adhésion est majoritaire chez les électeurs de Macron. 58% contre 42% qui voulaient d'abord faire barrage. Et symétriquement, Marine Le Pen représentait le souhait de 54% de ses électeurs contre 46% qui voulaient surtout sortir le sortant. Ce qui fait une France non pas coupée en deux, mais en trois ou en quatre. Macroniste et lepéniste de cœur, de raison ou de détestation. Mélenchoniste résigné ou dégoûté. Abstentionniste définitivement éloigné de la politique.
Qu'est-ce qui a manqué à Marine Le Pen ?
Malgré tous ses efforts, elle continue de faire peur. Et d'autant plus peur quand son arrivée au pouvoir semble possible ou imminente. Elle continue de mobiliser contre elle au second tour, moins qu'avant, mais vous avez encore 60% de Français qui considèrent que le Rassemblement national reste avant tout un parti nationaliste et raciste. C'est le sondage Ipsos, l'un des sondages Ipsos de l'entre-deux-tours. 57% qu'il représente un réel danger pour la République et près de 80% qui craignent des manifestations violentes si elle est élue. La désextrémisation de Marine Le Pen, qu'elle a entamée il y a plus de 10 ans, lui a permis de gagner du terrain, pas de devenir majoritaire dans le pays.
Qu'est-ce qui a manqué à Marine Le Pen ? Vous parlez, Bernard Sanalès, d'un front républicain citoyen qui s'est dressé hier face à elle, c'est pas tout à fait pareil que le Front républicain institutionnel.
Exactement, le Front républicain institutionnel, c'est les meetings communs, les mouvements qu'on a eus dans la rue en 2002, on s'en souvient, les appels des partis, des syndicats, etc. Il y en a eu, bien sûr, mais pas du tout dans les mêmes proportions. En revanche, il y a eu, chez beaucoup d'électeurs, notamment chez des électeurs de gauche, un vote républicain. Ce vote républicain, il s'est fait contre Marine Le Pen, pour deux raisons, à mon avis. La première, finalement, c'est que Marine Le Pen a réussi une très bonne campagne de premier tour. Mais qu'entre les deux tours, pour un grand nombre d'électeurs, Marine est redevenue Le Pen. Voilà. Et ça, je pense que ça a vraiment joué. C'est-à-dire que tout ce qui avait été fait sur la proximité a été, par la campagne opposée d'Emmanuel Macron, qui a évidemment essayé le face-à-face, à ressusciter cette opposition contre Le Pen. Et puis le deuxième, c'est ce qui s'est passé finalement au moment, comme toujours paroxystique, du débat. Quand on décortique le débat, on voit séquence après séquence, on a des études qualitatives que sur les propositions, sur les constats, Marine Le Pen est très souvent soutenue, ou en tout cas, elle a une approbation qui est proche d'Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets. Mais dès qu'on passe sur la solution, elle bute sur la question de la compétence. Et finalement, le doute sur la compétence a pris le pas sur le défaut d'arrogance. Et le défaut d'arrogance, il était un risque très important pour Emmanuel Macron. On le voyait dans le débat. Il a été réactivé au bout de 20 minutes. Nous, on avait des gens qui regardaient ce débat, un panel représentatif, etc. Au bout de 20 minutes, on l'a vu réactivé. Mais finalement, à chaque fois que Marine Le Pen avançait un constat, une solution, elle butait sur la question du financement de la compétence. Et cette barrière de la compétence, malgré le fait que tout le monde l'a reconnu, je ne suis pas expert, mais qu'elle avait progressé sur beaucoup de sujets, ce doute sur la compétence n'a pas réussi à être levé par Marine Le Pen. Pour moi, c'est la principale raison de son échec.
Mais ce doute-là, il sera peut-être levé dans 5 ans. C'est ce que vous craignez, Jean-Pierre Raffarin.
En tout cas, je ne veux pas courir un autre. Je crois qu'il faut bien voir que nous avons une situation un peu pathologique aujourd'hui. Regardez le rôle du Parlement. Je trouve que le président n'est pas du tout protégé. Oui. Et je suis vraiment préoccupé de voir que tous les reproches viennent sur lui, que finalement, il est tout jeune. C'était assez rare. On a eu le candidat le plus jeune qui était le plus expérimenté. C'est quand même assez rare que ce soit le plus jeune qui ait le plus d'expérience.
On aura le plus jeune ancien président dans 5 ans.
Exactement.
Puisque, on va le rappeler, la Constitution lui interdit de se présenter pour un troisième mandat. Donc, on sait, on a pour la première fois un président, et d'ailleurs jeune, qui commence un mandat en ayant la certitude qu'il
ne se représentera pas.
Il n'y aura pas un troisième.
Donc, ce pose un certain nombre de problèmes. Donc, c'est vraiment, lui, pour moi, il a actuellement tout en main pour réussir ce quinquennat. Il a l'expérience, il a la jeunesse, il est connecté avec la transformation écologique, avec la révolution digitale, il est connecté avec nos grandes transformations. Donc, je pense qu'il a tout en main. Pour peu qu'il ait bien mesuré qu'en effet, la continuité, c'est l'échec. Et donc, il nous faut, de mon point de vue, moi, il nous faut une réforme institutionnelle puissante.
C'est ça, c'est une 5e République augmentée que vous lui conseillez, c'est-à-dire, expliquez-nous.
Je pense qu'il ne faut pas aller à la 6e République, parce que dans la 5e République, il y a des principes gaullistes qui sont majeurs. Mais je crois qu'il faut une 5e République augmentée, c'est-à-dire qu'il faut plus de débats, plus de démocratie, plus de choix, moins de choses qui remontent au niveau du président de la République. Première idée, renforcer le rôle du Parlement. Dans cette idée-là, faire en sorte qu'on découple l'élection du député et l'élection du président.
C'est-à-dire qu'on revienne à un septennat, par exemple ?
Par exemple, ça pourrait être ça.
Pour le président ?
Il y a plus simple, il suffirait par exemple, soit qu'on fasse comme aux États-Unis des élections de mi-mandat, pour qu'il y ait une élection législative à mi-mandat. Aujourd'hui,
c'est ce que souhaite, je crois, Emmanuel Macron.
Vous avez, ce sont des idées qui circulent actuellement. On peut avoir une autre idée, qui est d'avoir un mandat de 4 ans pour le député et 5 ans pour le président. Avant, on avait 7 ans et 5 ans. Ça nous oblige à avoir des législatives pendant le mandat présidentiel.
Ce qui fait que le président est un peu en campagne tout le temps.
Mais de toute façon, ils sont en campagne tout le temps. Hein. Mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez l'élection du président, puis une majorité qui sort aux législatives, et pendant 5 ans, circuler, il n'y a plus rien à voir. Non, il faut pousser, à mon avis, à ce qu'il y ait un rendez-vous législatif pour le Parlement, et que le Parlement ait de vrais pouvoirs, et ceci pour à la fois donner à l'expression une place nouvelle, mais aussi pour protéger le président de cette surexposition. Je pense que notre système médiatico de communication aujourd'hui est un système qui use beaucoup trop vite, et donc il faut protéger.
C'est de la faute des médias, c'est pas un peu de la faute du président Macron, qui a un exercice du pouvoir très solidaire, très solidaire et vertical.
Bien sûr.
Il faut qu'il se réforme lui-même, Emmanuel Macron.
Mais Nicolas Sarkozy était comme ça. Il n'y a que le président normal et banal qui n'a pas tout à fait fait la même chose. Mais les deux autres, Sarkozy et Macron, ont été vraiment en charge de tout. Or, le principe de la Ve République, c'est que le président n'est en charge que de l'essentiel. Et donc, il ne faut pas l'user, il ne faut pas le fatiguer, il ne faut pas l'épuiser. Mmh. Quand vous voyez un jeune homme de 45 ans qui arrive au bout de 5 ans avec un dispositif de rejet comme il a eu, là, c'est qu'il y a une pathologie aussi du système. Et donc, pour moi, il faut qu'il y ait un Parlement qui soit plus vivant. Il faut aussi qu'il y ait plus de décentralisation. Par exemple, regardez, il y avait une belle idée qui était les gens tirés au sort. Les gens tirés
au
sort.
Pour la Convention citoyenne, par exemple, ou pour le vaccin aussi.
Mais c'est une idée absurde si vous leur donnez un texte technique, compliqué, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les experts qui manipulent les gens. En revanche,
ils étaient manipulés, les Français, de la Convention citoyenne.
Je pense qu'à partir du moment où il y a une haute technicité, vous ne pouvez pas demander à des gens tirés au sort. Ça veut dire que vous remettez en cause la démocratie représentative, qu'il faut des expertises pour déboucher sur des projets concrets. En revanche, la politique, c'est aussi de l'humeur, c'est de la colère, c'est de l'imagination. Qu'on est devant une Convention citoyenne, les ministres aillent répondre aux questions d'actualité. Qu'une colère, elle peut s'expliquer, il y a un drame qui se passe, tout ça. Que des gens tirés au sort interrogent, interpellent, fassent connaître leur opinion. Ça, je crois que c'est très utile. On a besoin de nervosité, de débat dans la vie politique. Mmh. Mais il ne faut pas confondre ce qui doit être l'émotion et ce qui doit être le travail d'expertise. Donc on a des idées nouvelles à avancer. Il faut que notre 5e République augmentée crée des conditions un peu nouvelles avec un président moins exposé et avec des lieux de débat multipliés dans la société.
Chaque fois que j'ai parlé d'institutions à des hommes politiques ou des femmes politiques ces dernières années, ils m'ont toujours dit oui, ça serait bien dans l'idéal, mais en pratique, ça n'intéresse personne. Les Français n'attendent pas ça. C'est ce que vous disent vos sondages.
En tout cas, ce n'est pas une demande prioritaire. Ouais. La première des priorités, c'est d'apporter des réponses au quotidien. Et c'est vrai que ça peut revenir sur cette question-là. Il y a un sujet, j'allais dire, non pas d'effectivité des peines, comme on dit de la justice, mais de l'effectivité des mesures. Le décalage entre la parole politique, la parole publique, l'effet d'annonce et la réalité, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais attendez, vous nous avez parlé de ça il y a 18 mois, il y a 2 ans. » Les gens comprennent que ça prenne du temps, ils ne sont pas exigeants sur tout de suite. Mais vous nous avez parlé de ça et puis c'est toujours pas fait. Et pourquoi? Donc comment on suit l'action politique? Comment on interagit avec? Comment on l'amende? Je pense qu'on n'a pas été suffisamment innovant, alors qu'aujourd'hui il y a plein de techniques, pas seulement digitales. Et que finalement, les deux expériences qui ont eu lieu pendant le quinquennat, le grand débat et la Convention citoyenne, ont été un peu frustrantes. Ça, on l'a beaucoup dans les enquêtes. Les gens qui nous disent c'était pas mal, c'était une bonne idée, mais finalement, ça n'a pas accouché de grand-chose, peut-être pour des problèmes techniques. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été assez décevant. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que par exemple, quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes et que le mouvement des Gilets jaunes a dérivé, on va dire, sur des questions institutionnelles, notamment le RIC, il y a beaucoup de gens qui sont sortis du sujet en disant « mais c'est plus notre préoccupation ». Rester sur les problèmes quotidiens des impôts, du
mais
pouvoir d'achat.
Mais la revendication, c'était quand même d'être mieux représenté.
Tout à fait.
De,
participer, oui.
Voilà, et
oui.
de rendre plus étroit cet écart entre ces politiques technocrates et les gens du peuple, entre guillemets.
Bien sûr, mais de participer, encore une fois, pour des choses concrètes, appropriables, et pas pour un débat simplement institutionnel.
Il n'empêche, il faut protéger le président, dit Jean-Pierre Raffarin, il n'empêche, les Français veulent un chef autoritaire, et vers lequel on puisse se retourner au moindre oui. problème. C'est un paradoxe.
Oui, alors ça, c'est... Moi, j'entends évidemment ce que dit, avec son expérience, Jean-Pierre Raffarin, mais c'est vrai que le syndrome, appelez-moi le directeur, il est quand même très important. et d'ailleurs, on le voit, parce qu'on parle beaucoup de l'abstention. On a raison, c'est un record, etc. Mais malgré tout ce qu'on dit sur la désaffection, les années, ce qui est vrai, on n'invente pas ça. On a quand même trois quarts des Français qui disent « Attendez, le premier tour d'élection présidentielle, j'y vais, c'est important. » Ça dit quand même la centralité de la fonction présidentielle. Oui. On attend tout du président. On attend l'essentiel et on attend le détail. On attend le long terme et on attend le court terme. Les Français, là-dessus, sont assez paradoxaux, disons-le aussi.
Il va falloir convaincre les Français, Jean-Pierre Raffarin.
Mais je pense que, de toute façon, il faut traiter la pathologie. Et quelquefois, au fond, les gens ne vont peut-être pas avoir conscience que la proportionnelle serait une bonne solution, qu'il faut avoir un Parlement qui a un vrai pouvoir. Tout ça n'apparaît pas forcément au départ. C'est vrai que la réforme institutionnelle, elle est compliquée, mais dans sa pratique, ça peut compter beaucoup. En effet, les Français sont souverainistes, ils veulent un chef, mais ils sont aussi régicides, c'est-à-dire ils aiment couper la tête du chef et si possible de la reine également. Et donc, il faut lui donner... Alors, on a inventé le rôle du Premier ministre pour ça. Mais je pense que le Premier ministre, aujourd'hui, il devrait, par exemple, être en charge d'un contrat de majorité. Pour ça, il faut avoir l'idée peut-être un peu allemande d'aller chercher une coalition. Moi, je crois...
Mais oui, ça, vous y croyez beaucoup, ça.
Je crois qu'il nous faut... D'abord, bien comprendre que c'est la droite qui limitera l'extrême droite. Et c'est la gauche qui limitera l'extrême gauche. Je ne crois pas que le centre pourra limiter à lui seul les extrêmes. Et donc, je pense que pour gouverner au centre, il faut gouverner avec un principe qui est un principe de coalition, c'est-à-dire un accord gouvernemental, en ce qui, pour moi, est plutôt un centre droit et un centre-gauche. C'est cette idée allemande d'une coalition qui veut dire que derrière, il y a un contrat de gouvernement. Regardez les Allemands, quand ils sont élus, ils travaillent pendant 2 ou 3 mois à faire un projet. Et donc, il faut qu'il y ait un projet, d'où la place du Premier ministre. Et c'est comme ça qu'on pourrait avoir un Premier ministre plus exposé. Il ne faut pas que ce soit qu'un seul collaborateur, parce que celui dont on coupe la tête, celui dont on dit que le peuple est régicide pour lui, c'est le Premier ministre. Et donc, il faut renforcer le Premier ministre dans nos institutions aussi.
Un mot sur les scores de Marine Le Pen dans les autres et en Corse également, où elle arrive très largement en tête.
Vous avez 58%. En Corse, elle arrive en tête en métropole dans les Hauts-de-France et en PACA d'extrême justesse. Et on voit bien que la progression de Marine Le Pen est très forte dans toutes les régions. Même dans des régions qui étaient des terres de mission pour elle. Je prends la Bretagne, par exemple. Elle progresse de 8 points. Il n'y a que dans les grandes villes, effectivement, où son score reste extrêmement bas. Dans les Outre-mer, la progression est spectaculaire, parfois de 20 à 30 points. Là, on voit bien que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, notamment au premier tour, qui avait passé en tête, notamment dans la zone anti-Caraïbes, ont transféré leur voix. Alors, il y a plein de raisons pour ça, enfin, deux principalement. La première, il y a eu, bien sûr, la critique dans ces départements ultramarins de la gestion de la crise sanitaire. C'est incontestable de l'avis de tous les experts qui sont sur place. Et deuxièmement, ça fait partie, comme des territoires ruraux, comme des territoires périphériques, de territoires qui se sentent délaissés et qui considèrent que l'action publique n'a pas apporté des réponses à leurs difficultés, notamment, là aussi, en matière de pouvoir d'achat.
Les agendas. L'agenda du président à venir, Pierre.
Depuis hier soir, Emmanuel Macron est à la résidence de la Lanterne. Il réfléchit selon son entourage. Mercredi, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, proclamera officiellement les résultats de l'élection présidentielle. Un Conseil des ministres se tiendra à l'Élysée et le même jour, Emmanuel Macron présidera l'hommage national à Michel Bouquet aux Invalides. Devrait suivre, mais pas avant le début de la semaine prochaine, la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Mais là aussi, Emmanuel Macron veut prendre son temps. Une chose est sûre, la cérémonie d'investiture du président qui se succède à lui-même doit avoir lieu avant le samedi 14 mai, date de fin de l'actuel mandat. Vous pensez, Jean-Pierre Raffarin, que le président de la République a raison de donner un tout petit peu de temps au temps ?
Jacques Chirac avait été très très vite en 2002. puisque l'élection a eu lieu le dimanche et que moi j'étais nommé le lundi soir. Donc il avait été très très vite. Donc je pense que dans cette situation de crise, il faut quand même donner un certain rythme à l'action pour bien montrer qu'on va aux législatives avec un projet présenté.
On avait reproché à Jacques Chirac cette victoire triomphante alors que c'était aussi un barrage contre Jean-Marie Le Pen. Enfin...
Oui, mais vous vous souvenez du résultat des législatives. Je pense que Jacques Chirac et moi et quelques autres, on était assez convaincus que la gauche allait gagner. On avait trouvé que Jospin s'était bien comporté et on pensait que les Français allaient renvoyer à la gauche ce beau geste qu'ils avaient eu vis-à-vis de la République. Et puis, finalement, nous avons gagné les législatives dans une proportion inattendue. C'était la chambre bleu horizon. Et donc là, il n'y avait plus question d'ouverture, il n'y avait plus de question puisqu'on avait une chambre de droite qui le pays avait soutenu beaucoup, Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac avait montré que c'est d'abord sa responsabilité. Il n'avait pas nié sa responsabilité dans la montée de l'extrême droite en disant c'est mon échec, c'est notre échec, c'est l'échec de la République. Et il était dans une situation où il accusait tellement le coup que les Français l'ont ressenti. Il y a une sorte d'estime qui est sortie de tout cela, qui nous a aidés naturellement pour les législatives.
Alors, est-ce que ça pourrait fonctionner pour les prochaines législatives? C'est les 12 et 19 juin prochains. Et le troisième tour, il a commencé dès hier sur les plateaux télé.
Oui, quelques minutes après que sa défaite a été officialisée, Marine Le Pen a prononcé un discours. Alors, pour saluer d'abord son score historique et puis surtout pour entrer en campagne, la nouvelle campagne.
Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Le Rassemblement national œuvrera à unir tous ceux d'où qu'ils viennent. Je vous invite d'ores et déjà à les appuyer de toutes vos forces et dès le 12 juin à voter pour eux.
Même échéance en vue du côté de Jean-Luc Mélenchon.
Le troisième tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Le 12 et 19 juin, un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité, je dis bien une majorité, de députés de la nouvelle Union populaire qui doit s'élargir.
Aussitôt dit, aussitôt appliqué, parce que depuis hier soir, les scissions et les rapprochements se font sous nos yeux, en direct, sur les plateaux télévisés. Ainsi, on a compris que pour remporter les législatives à gauche, les insoumis comptent sur les Verts et vice-versa.
Nous appelons à une grande coalition, bien sûr. Nous y travaillons déjà avec la France insoumise et avec d'autres. Je souhaite que ça soit le plus large possible, le plus grand nombre de députés écologistes, insoumis, communistes, socialistes et autres forces de gauche. C'est ça l'enjeu.
Si c'est possible, il faut élargir cette union populaire, faire en sorte que le bloc populaire qu'on a constitué au premier tour de l'élection présidentielle s'élargisse. Et c'est l'objet des discussions qui ont lieu aujourd'hui avec les autres formations politiques à gauche.
Les insoumis veulent élargir pour combattre la majorité présidentielle. Donc quand à droite, Rachida Dati tente de s'allier à la majorité incarnée par Gabriel Attal sur un plateau télévisé hier soir sous les yeux de Clémentine Autain, ça rend ce triangle politique électrique.
Il faut qu'il y ait une majorité solide, en tous les cas, il faut qu'il y ait des parlementaires solides pour pouvoir effectivement porter cette politique.
Vous venez de faire quasiment une proposition, une offre de service.
Écoutez, Madame Autain, non mais ça va.
Vous venez quasiment faire une offre de service, Madame Dati.
J'ai pas besoin
de
vous, j'ai besoin de personne. Moi, je vous dis, l'offre de service que je fais, c'est aux Français.
Parce que, effectivement, je vous ai pas coupé, Madame Dati.
Non, laissez Clémentine Autain finir sa phrase, s'il vous plaît.
À traduire ou interpréter des propos.
Et puis, il pourrait y avoir eu des alliances évidentes à l'extrême droite, par exemple, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, sauf que, ça n'est pas gagné.
C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat.
Très honnêtement, vu la manière dont Éric Zemmour hier a traité le problème, je ne vois pas comment il pourrait y avoir d'alliance aujourd'hui pour les législatives.
Dans cette semaine, ces élections législatives pourraient-elles contredire le résultat de la présidentielle et contraindre Emmanuel Macron à une cohabitation, Patrick ?
Tout est possible, compte tenu de l'humeur du pays et de la décomposition du paysage politique. Nous aurons sans doute les élections les plus imprévisibles de ces dernières décennies. Hier soir, un bon concurrent nous disait qu'une majorité de Français souhaitait qu'Emmanuel Macron perde les législatives. Perdre les élections législatives. Pour des motifs, vous avez les mêmes indications.
Oui, mais alors je nuancerai, nonobstant la qualité de notre confrère Ipsos, je nuancerai cette question. Pourquoi ? Au scrutin majoritaire, il faut entre 30 et 35 % des voix.
Ah, j'y viens. Voilà,
pour avoir une majorité.
Mais là, parlais du souhait des Français, du souhait de quelle Assemblée nationale ils projettent pour le début du quinquennat de Macron. Donc, ce que nous disent effectivement les derniers scrutins, c'est que la grande démobilisation des électeurs, une fois passée l'échéance présidentielle. Il y a 5 ans, la participation avait chuté à moins de 50%, 48% au premier tour, 42% au second. Comme il faut 12,5% des inscrits pour accéder au second tour, à 50 participations, il faut qu'un candidat atteigne 25% des voix. À 42% de participation, la marche est encore plus haute, 30% des suffrages. Autant dire que sans un sursaut civique, il y aura des duels, pas ou peu de triangulaires, une prime au sortant, quelle que soit sa couleur politique, et zéro chance pour les candidats qui n'ont pas fait d'alliance au premier tour ou dont le camp politique est divisé entre plusieurs candidats. D'où l'enjeu des négociations à gauche, on vient de le voir. Est-ce que les insoumis, les écolos, les socialistes peuvent surmonter leurs divergences pour présenter, non pas une alliance, un accord de second tour, mais des candidatures communes dès le premier tour. Bon, côté PS, c'est mal parti, même si je crois qu'il y a une rencontre qui doit se tenir demain entre socialistes et insoumis. Et puis, d'où le handicap difficilement surmontable du Rassemblement national, qui n'a pas d'alliés, qui, pour l'instant, ne veut pas entendre parler du parti d'Éric Zemmour, qui exclut tout compromis ou accord électoral de premier tour, et qui est particulièrement vulnérable à l'abstention qui touche les catégories populaires et les jeunes qui sont au cœur de l'électorat de Marine Le Pen.
Tout est possible, mais non, en vrai.
C'est compliqué. Pour projeter les législatives, il faut partir du premier tour des présidentielles. Ce premier tour des présidentielles, il dit, vous l'avez dit souvent, tripartition, trois blocs. Il y a un bloc RN plus Reconquête, sans même parler de Nicolas Dupont-Aignan, qui fait 30%. Il y a un bloc de gauche qui fait aussi 30%. Il y a pas un bloc, mais il y a le centre avec En Marche et la majorité présidentielle qui fait un peu plus de 28%. Ce bloc-là, cet espace central, il a pour l'instant, sur le papier, au moment où nous parlons, un avantage, c'est qu'il est uni. Sauf de rares dissidences, bisbilles d'investiture, il y aura un candidat majorité présidentielle dans 577 circonscriptions. Et il a beaucoup de sortants, dont certains ont fait du travail, mais c'est plus facile de faire élire des nouveaux candidats en 2017 inconnus par une vague de dégagisme que de les faire réélire après 5 ans de mandat et plusieurs crises. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, l'enjeu de la division est terrible, notamment pour la gauche. C'est-à-dire que si la gauche se présente unie, elle peut espérer, peut-être pas avoir une majorité, mais elle peut espérer une chose très importante, c'est redevenir la première force d'opposition à l'Assemblée nationale et prendre le leadership de l'opposition. Aujourd'hui, rappelons-le, la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est la droite. Or, ce parti de droite, qui représentait en 2017 à peu près 20% des voix, qui fait 100 députés, il est atomisé, éclaté, etc. Et donc, c'est aussi l'affaiblissement de la droite qui va déduire ce que sera la majorité législative. Elle sera sans doute un peu boostée pour la majorité présidentielle.
Jean-Pierre Raffarin, votre diagnostic, le président aura-t-il une majorité ?
Je pense que c'est probable, mais j'en suis d'accord pour dire que c'est très incertain aujourd'hui. Mais disons qu'il y a des mécaniques qu'on vient d'évoquer avec les taux de participation et le pourcentage d'inscrits. Donc je crois qu'a priori, la dynamique du président, surtout s'il utilise ces semaines-là pour présenter le projet institutionnel, politique, pour justement redistribuer cette nouvelle donne politique dont le pays a besoin, cette relance de la démocratie. Donc si le président rajoute sa personne... Vous savez, ce qu'on remarque là, c'est que hier soir, les chefs de parti, enfin les candidats ont parlé. Parce que les partis ne peuvent plus parler. Autrefois, c'était le PS qui parlait, mais là, en fait, ce sont les candidats aux présidentielles qui parlent. Ce qui veut dire que dans les prochaines législatives,
peut-être que le président aura plus d'importance que le Premier ministre. Jusqu'à maintenant, c'était le Premier ministre juste
qui menait la bataille des législatives.
Oui, peut-être qu'on est parti là dans un système qui va être différent, je ne sais pas.
Selon France Info, c'est Emmanuel Macron qui devrait arbitrer lui-même la liste des candidats à La République En Marche dans chaque circonscription.
Ça ne m'étonnerait pas que ce soit le président qui mène un peu cette affaire. Ça va, on va tout de suite le voir avec le profil du Premier ministre ou de la Première ministre, suivant sa capacité à être un leader politique ou au contraire un bon gestionnaire pour gérer les retraites ou autre chose. Donc nous allons bien voir un peu comment les choses vont se présenter avec la nomination du Premier ministre. Mais je crois que, en fait, tout va être une question d'unité du camp. Donc on voit quel problème Zemmour à l'extrême droite, qu'il y a le problème quand même des candidats pour la gauche, et notamment les écologistes et tout le terrain, parce qu'au municipal, les écologistes ont fait quelques percées. Mmh. Donc leur impact territorial est plus fort que leur impact national. Donc tout ceci, il va falloir qu'ils en tiennent compte. Et en fait, ce que propose Mélenchon, si j'ai bien compris, c'est de faire d'élargir son projet. Et ils ne discutent pas forcément d'un projet collectif. On n'est pas forcément là sur un programme commun. Donc on va voir.
Ça va être assez difficile. À partir de son projet.
Donc, d'où la question pour la droite, le centre, et donc pour la Macronie dans son général, sa capacité à être unie. Ce ne sera pas si simple que ça, parce qu'il y a ceux qui veulent des groupes parlementaires, comme le MoDem, comme Horizon. Il y a ceux qui n'en veulent pas. Mmh. Et donc, ce qui est de la droite, ce qui est assez clair aujourd'hui, il y avait toujours deux droites dans ce pays, en dehors de l'extrême droite. Il y avait la droite orléaniste. La droite bonapartiste. Ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que la droite orléaniste, ce qui était la droite entrepreneuriale, la droite UDF, disons, grosso modo, elle est représentée aujourd'hui plutôt par Édouard Philippe. Elle est avec Macron. Reste une partie de la droite bonapartiste qu'a fait Valérie Pécresse, qu'a représenté Valérie Pécresse, qui est en fait assez modeste aujourd'hui, entre une droite qui a poussé et au fond des orléanistes qui se sont développés avec Macron, la droite entrepreneuriale. Donc je pense que tout le monde a un match d'unité, mais dans ce match d'unité, c'est quand même Emmanuel Macron et son camp qui ont, je pense, le pronostic le plus favorable.
Vous vouliez ajouter un mot ?
Dans ce scénario qui peut évidemment encore être bousculé, il y a un élément qui peut être le très gros caillou dans la chaussure de la majorité présidentielle, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites peut être le chiffon rouge qui pourrait remobiliser tous les électorats contre Emmanuel Macron,
d'ici aux législatives. Si rien n'est
parce qu'il y a une alliance, j'allais dire, sociologique. Qu'on soit électeur de Marine Le Pen ou qu'on soit électeur de Jean-Luc Mélenchon, on a beaucoup de différences sur beaucoup de sujets, mais on a en commun l'opposition à la réforme des retraites pour une double raison différente. Dans les milieux populaires, on considère que la réforme des retraites à 65 ans, c'est ne pas se rendre compte de la réalité, de la dureté de la vie quotidienne. Et dans un électorat plus jeune, c'est vous ne vous êtes pas rendu compte qu'après la crise Covid, on ne projette plus la même vie, le même rapport au travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus travailler, mais un mauvais équilibre. Et je pense que si le calendrier, l'intensité de la réforme des retraites est maintenue, à ce moment-là, on peut avoir un autre débat pour les législatives.
Il y a un précédent dont Jean-Pierre Raffarin se souvient, 2007, la TVA sociale avancée par Jean-Louis Borloo, juste après l'élection de Nicolas Sarkozy, 50 pchit. Députés en moins pour la majorité
qui sont partis
de droite.
Ça a fait pchit, ce que vous disiez.
Ah oui, vraiment.
Et ben, c'est la réforme des retraites dont Bruno Le Maire a parlé ce matin.
Oui, on lui a posé la question de la concertation, évidemment, mais s'il n'y avait pas de concertation trouvée, ce qui pourrait sortir l'outil, le vieil outil constitutionnel du 49-3, il n'a pas dit non.
Que vous garantissez ce matin que le gouvernement ne passera pas en force, n'utilisera pas le 49-3 pour faire passer cette réforme?
Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogues avec l'espoir de parvenir à un compromis.
Il y a un espoir, c'est quand même une réponse ambiguë, ne dit pas non, ça pourrait, ça aussi, être la raison de faire pchit.
Le sujet est trop lointain pour que cette question puisse être répondue avec sérieux. Au fond, personne ne connaît la donne. C'est le Premier ministre qui demande au président de la République l'autorisation d'engager le 49-30. Donc Bruno Le Maire n'est pas Premier ministre, il n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très théorique. Et donc je comprends qu'il ait été prudent, parce qu'il n'est pas en mesure de répondre. Donc la prudence est de la sagesse.
Vous évoquiez tout à l'heure une majorité présidentielle et un gouvernement un peu à l'allemande, qui aurait un vrai programme de gouvernement négocié, discuté et mis en pratique. Tout va tourner autour de la nomination déjà du ou de la Première ministre. On cite beaucoup Julien de Normandie, Elisabeth Borne, ils sont souvent cités. Vous avez soufflé, vous, un nom à Emmanuel Macron et vous allez nous le dire.
Non, je n'ai pas... D'abord...
Ou le contraire, peut-être qu'il vous l'a soufflé.
Non, mais j'analyse comme vous. D'abord, un point très important, depuis l'expérience Fillon-Sarkozy, on sait qu'il faut deux premiers ministres dans un quinquennat, car un président ne peut pas partager un bilan avec quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il y aura un Premier ministre pour le programme, pour la réforme des retraites, pour il y a un Premier ministre qui gère le programme, et puis il y aura l'autre Premier ministre qui gérera
la succession.
Sachant que dans la circonstance, la succession de Macron, c'est un sujet qui engage Macron. Car Macron aurait comme successeur, par exemple, Madame Le Pen. Un mandat réussi est une succession réussie. Un mandat raté est une succession ratée. Donc il ne peut pas rater la deuxième partie de ce mandat. Donc, a priori, on peut imaginer qu'il prendrait un Premier ministre pour mener la réforme des retraites et l'organisation gouvernementale de la transition écologique. Et c'est le deuxième Premier ministre qui préparerait la succession. Donc là, vous voyez, on a un profil un peu moins politique. Mais si, moi, j'étais conseiller, je dirais attention, parce que la réforme institutionnelle, par exemple, mettre en place une part de proportionnelle, c'est très long. On a vu que c'était très difficile. Il faut traiter avec le Sénat, il faut traiter avec les milieux politiques.
Il faut être très politique.
Donc, il faut être très politique et donc il faut commencer de bonne heure.
Ce serait moins Elisabeth Borne.
Et donc il faut commencer de bonne heure.
Donc ce serait moins
Elisabeth Borne. Mettre cette réforme-là dans la deuxième partie
du quinquennat.
Selon votre conseil, ce serait moins Elisabeth Borne dans ce cas-là.
Je pense qu'il y a...
Et plus Julien de Normandie.
Il y a un moment un profil un peu plus politique et de l'autre un moment
un peu plus politique. Mais il faut un nouveau visage pour ce premier ministre puisqu'il a promis une nouvelle méthode, 5 ans de renouveau.
Oui.
Il faut un vent de fraîcheur. On passe ces noms qu'on entend.
Malgré votre jeunesse, vous défendez une cause de l'ancien monde. Parce que vous avez bien vu que maintenant, ce sont les leaders de la présidentielle qui mènent le débat politique. Donc, si on devait avoir une réforme importante qui touche notamment nos institutions, c'est probablement le président qui la porterait plutôt que le Premier ministre. Donc, ça, je ne sais pas comment les choses peuvent se faire. De toute façon, le président, il va chercher aussi à surprendre. Donc, soyons prudents. Ne nous épuisons pas dans tout ça. Ce qui est très important, c'est qu'on ne perde pas de temps. Le pays est dans une situation d'extrême gravité. On n'est pas dans une situation de fait. Le président a été très performant. Il a fait une campagne très habile. Il est globalement, aujourd'hui, il est salué en Europe de manière assez exceptionnelle. Il a un vrai leadership. Donc, il est en situation. On est assez fiers. Moi, j'avais un peu la larme à l'œil quand j'ai entendu l'hymne européen, que je le voyais avancer. Là, je pensais à des Allemands voyant ces images. Je pensais à des Italiens ou des Espagnols. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. Mais la gravité est là. Et la gravité fait qu'il faut modifier notre modèle pour chasser la violence de la République.
L'enjeu du Premier ministre pour Emmanuel Macron, Bernard Sananès, pour conclure.
Je crois que ce n'est pas pour la période là, ce n'est pas si important que ça. Parce que je pense que c'est le président de la République qui va mener la campagne. On l'a vu, c'est lui qui a mené la campagne présidentielle, tout seul quasiment. Il y a eu peu de place pour les autres. Et finalement, hier, il y a beaucoup d'électeurs qui ont été votés Emmanuel Macron, mais qui vont l'avoir mis un peu sous surveillance. Et ils vont voir si pendant les 7 semaines, si le compte est bon, qui nous sépare des législatives, les engagements qu'il a pris, engagements moraux, engagements de campagne, sont sérieux ou pas. Est-ce qu'il va changer de gouvernance, comme il s'y est engagé à plusieurs reprises, comme il s'y était déjà engagé pendant le quinquennat? Est-ce qu'il va faire de l'écologie une vraie priorité? Ou est-ce que tout ça n'était finalement que des propos de campagne? Ça, je pense que c'est un sujet sur lequel il sera suivi, observé.
Donc jusqu'au dernier moment, les Français pourraient ou pas le renouveler.
En tout cas,
pourraient
dire, finalement, est-ce que c'était sincère? L'enjeu de la sincérité est très important pour Emmanuel Macron. Et puis le deuxième point, c'est la question du rassemblement. Hier, dans la journée du vote, on a posé une question. Est-ce que vous pensez que le plus important, c'est de rassembler ou c'est de réformer? Je fais simple. On est à 2/3 pour rassembler, quitte à repousser des réformes, et à 1/3 pour réformer. Il y a quelques mois, et au début du quinquennat précédent, on était quasiment à 50-50. Il y a une envie d'apaisement dans la société française. Donc je comprends ce que dit Jean-Pierre Raffarin sur le côté « il faut aller vite dans les réformes », mais cette envie d'apaisement, c'est une donnée aujourd'hui de fond, une donnée, j'allais dire, plus sociologique que politique qui traverse la société.
Vous avez dit, Jean-Pierre Raffarin, que l'élection présidentielle française avait été saluée partout en Europe. C'est l'objet de la story de Mohamed Bouabsi. J'allais dire d'Emmanuel Macron, non, c'est... Des millions de téléspectateurs devant leur poste en France, mais partout en Europe, Mohamed.
Oui, si en France, notre élection présidentielle n'a pas suscité une ferveur folle et un engouement exceptionnel, le résultat d'hier a été suivi par toute la presse mondiale. En Allemagne, Der Spiegel titre « Macron gagne pour l'Europe ». Pour le Diario de Noticias au Portugal, la victoire de Emmanuel Macron soulage les dirigeants européens. Le quotidien Clarín en Argentine félicite le président Macron pour avoir freiné l'extrême droite. Toutes les télés étrangères ont suivi la victoire du président réélu hier soir.
Elation underneath the Eiffel Tower tonight. Emmanuel Macron's followers celebrating the first French president to be re-elected in 20 years.
Exit polls, which are usually incredibly accurate, suggest that Mr. Macron will win around 58% of the vote, with Ms. Le Pen taking around 42%.
Una victoria marcada por la participación. A las 5 de la tarde, el último balance anunciado caía el 63,23%.
Ну, а Эммануэль Макрон, по случаю победы, приехал на Марсово поле, где его встретили сотни сторонников, ожидается речь.
Les médias américains se réjouissent de la victoire d'Emmanuel Macron. Le New York Times félicite la France qui rejette une Marine Le Pen hostile à l'Union européenne et les valeurs françaises en vertu desquelles aucun citoyen français ne devrait être discriminé parce qu'il est musulman, par exemple. Le Washington Post considère qu'Emmanuel Macron est un leader de l'Union européenne. Le magazine The Atlantic suggère qu'Emmanuel Macron pourrait devenir la figure européenne déterminante de notre époque, éclipsant même Angela Merkel. Et de conclure, paraphrasant les mots de Churchill sur le général de Gaulle, le président français n'est pas aussi intelligent qu'il le croit, il est égoïste, il est arrogant, il croit qu'il est le centre du monde et pourtant il pourrait bien devenir un grand homme. La télé allemande, elle, a consacré 3 heures de direct à cette élection, 4 heures pour la télé québécoise. Les Italiens, eux, avaient organisé une édition spéciale dans le journal.
Bonjour mesdames et messieurs, bon dimanche. Le verdict dans une heure et demie, très exactement.
Andiamo collegati i nostri corrispondenti ed inviati. Cominciamo da Nicoletta Manzione. Nicoletta, ci siamo.
E allora sì, mancano pochissimi minuti alla chiusura delle urne a Parigi e nelle grandi città.
Emmanuel Macron, 44 ans, qui se fait réélire.
Er hat zum zweiten Mal in der Stichwahl gegen seine rechtsradikale Konkurrentin Marine Le Pen gewonnen.
Stanno scandendo Marine, Marine e i suoi sostenitori hanno appena finito di cantare l'inno.
La scène politique internationale a aussi applaudi à la victoire d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre italien Mario Draghi salue une magnifique nouvelle pour toute l'Europe. Satisfaction partagée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis de poursuivre notre collaboration. Joe Biden félicite son ami Emmanuel Macron, son partenaire clé face aux défis mondiaux. J'apprécie son soutien et je suis convaincu que nous avançons ensemble vers de nouvelles victoires commune. Ça, ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Pour finir, ce télégramme de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, je vous souhaite sincèrement du succès dans votre action publique, ainsi qu'une bonne santé. Des vœux de bonne santé qui ne sont pas forcément rassurants quand ça vient du président russe Vladimir Poutine. Jean-Pierre Raffarin, au vu des mots que l'on voit partout dans la presse internationale et surtout de la part des dirigeants internationaux, est-ce que ça renforce la posture, la position d'Emmanuel Macron sur la scène européenne et notamment dans le monde?
Mais bien sûr, il a déjà une position assez forte. Tout le monde a vu et son intelligence, sa capacité d'énergie. Mais là, en fait, il prend un peu un lead européen et peut-être un lead aussi un peu sur les démocraties. Parce qu'au fond, on voit bien aujourd'hui que tout n'est pas une affaire que d'Occident. Par exemple, quand on dit la Russie en Ukraine, c'est contre l'Occident. C'est aussi contre la démocratie. Ce qui est attaqué en Ukraine, c'est la démocratie. Le Japon soutient la politique européenne. Donc ce sont les démocraties, notre camp international, ce sont les démocraties face au régime autoritaire. Donc je crois qu'il a là un rôle à jouer et que c'est un rôle international qui doit bien incarner.
C'est peut-être ce qui a manqué aussi à Marine Le Pen, oui, justement, cette position, cette présidentialité sur le plan international.
En tout cas, incontestablement, la dimension internationale, la stature du président de la République, d'autant plus dans la période de la crise ukrainienne, a été un atout différentiel par rapport à Marine Le Pen et a conforté la présidentialité du chef de l'État qui, dans les dernières semaines de campagne, a joué. On voit bien qu'un certain nombre d'électeurs ont hésité jusqu'au dernier moment et que une partie non négligeable qui pourtant voulait exprimer une colère, n'ont pas été jusqu'au bout, n'ont pas renversé la table parce qu'il y avait cette dimension, cette stature de président de la République.
Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB, qu'on a trop peu cité ce soir, mais qu'on cite là pour conclure cette émission, Jean-Pierre Raffarin. Merci beaucoup à tous les deux de votre présence. Excellent débat ce soir dans C'est à vous. Dans un instant, Michel Larocque nous présente un jeune ténor absolument bluffant, vous allez l'adorer. Et puis Félix Moati, hier, a suivi en direct l'élection présidentielle, il en a fait un film. Vous allez voir, c'est absolument bluffant, il était diffusé en direct sur Arte. Et pile à 20h05, l'élection présidentielle a été intégrée dans ce film de fiction. C'est inédit et c'est bluffant. A tout de suite pour le dîner de C'est à vous. Merci beaucoup, messieurs.